va exercer son ministère sous le règne du plus jeune roi de Juda. Est-ce que vous vous rappelez quel est le plus jeune roi de Josias, de Juda? Josias, à quel âge? Alors bien sûr, il était sous tutelle un petit peu, mais à quel âge il a commencé à régner, vous en rappelez? 8 ans. 8 ans. Alors bien sûr, il était sous tutelle, hein, il a régné quand même 31 ans, mais à 8 ans, hein, ce plus jeune roi, Josias, là aussi. Et puis à travers ce ministère de prophète de Sophonie, eh bien, Dieu avertit bien sûr son peuple de Juda. Il l'exhorte à venir, à revenir à lui. Mais pour terminer cette prophétie, il ouvre une porte d'espérance extraordinaire. Et c'est aussi dans, on va dire, le protocole de Dieu. On reconnaît la parole de Dieu à ce que même lorsqu'il nous reprend, même lorsqu'il nous redresse, il y a toujours une porte d'espérance. C'est la différence avec la voix de l'adversaire ou du monde, hein, qui culpabilise, qui manifeste parfois notre état, mais sans porte d'espérance. Il y a toujours une porte d'espérance avec Dieu. Amen. Et c'est ce qui fait la qualité ce matin de notre Seigneur. Alors, Sophonie 3:14, et on va parler, il y a un verbe, hein, qui revient souvent, vous allez le découvrir vous-même, c'est le mot « rassembler ». Je rassemblerai. Dieu est rassembleur par nature. Hein, le Fils, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont rassembleurs, ils sont assemblés. Et rassembler, ça veut dire littéralement, c'est assembler à nouveau. Hein, et assembler encore et encore. Et ce matin, bien, c'est ce que le Seigneur souhaite, en tout cas pour son peuple, pour ses enfants, rassembler autour de sa personne, autour de son œuvre. Et voilà ce qu'il est dit dans Sophonie, au chapitre 3, et le verset 18. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont loin de toi, sous le poids du déshonneur. À ce moment-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont méprisés. À ce moment-là, je vous ramènerai, à ce moment-là, je vous rassemblerai. Oui, je ferai, vous, un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre quand je ramènerai vos déportés sous vos yeux, dit l'Éternel. Amen. Alors, on le sait que dans l'ancienne alliance, il y a toujours une double portée, voire une triple portée sur les prophéties. Elles peuvent être dans l'instant, dans l'année, dans le siècle présent. Mais elles ont aussi une portée, bien sûr, spirituelle. Elles ont aussi une portée éternelle. Il s'agit là aussi, bien sûr, hein, de ce temps de millénium où Dieu va rassembler son peuple. Mais il y a aussi une portée spirituelle pour nous ce matin à travers ce rassemblement. Et on va parler de cette volonté divine de toujours nous assembler, nous rassembler autour de sa personne. Et on va voir ce matin, bien, qui est concerné. On va voir comment Dieu s'y prend, et puis on va voir pourquoi le Seigneur tient tant à nous assembler, à nous rassembler, afin que nous puissions bien ce matin être à son écoute. Alors, dans ce texte, eh bien, d'abord, qui est concerné? Qui est appelé à être rassemblé? Qui est appelé à être assemblé à nouveau et tout à nouveau autour de la personne de Jésus-Christ, autour de notre Dieu? Eh bien, le texte nous dit ceci: je rassemblerai d'abord ceux qui sont dans la tristesse, je rassemblerai ceux qui sont loin des fêtes solennelles, ceux qui sont loin de toi sous le poids du déshonneur, je rassemblerai ceux qui ont été chassés. Il y a déjà ici bien un public qui est concerné, et certainement qu'on peut s'identifier également ce matin au travers de ces quelques versets. Dieu rassemble d'abord ceux qui sont dans la tristesse. Ceux qui sont dans la tristesse. Dieu rassemble ce matin bien ceux qui vivent des moments bien sûr difficiles. Il les assemble avec tous ses enfants pour former un seul corps. Ça ne veut pas dire que Dieu maintenant va rassembler tous ceux qui sont tristes de la terre, etc., puis sans aucune occasion de salut. Mais Dieu attache une importance à ceux qui vivent dans la tristesse et qui s'attendent à lui, à ceux qui ce matin sont là aussi dans ces moments de difficulté, de période peut-être pénible, pour que dans sa bonté, dans sa grâce, on le verra, eh bien quelque chose se passe. lorsque nous sommes tristes, en tout cas certains, par pudeur, par peur de le déranger, par peur d'apparaître peut-être en état de faiblesse, parfois cette tristesse, eh bien, nous éloigne. Parfois cette tristesse nous fait nous replier sur nous-mêmes. Il y a dans le contexte, bien sûr, là de l'époque, des Juifs qui ont été déjà exilés et qui vivent cette tristesse. Mais peut-être que ce matin, ça nous concerne, nous, d'une manière très concrète, très pratique, cette tristesse. Et puis aussi, peut-être, cette fausse culpabilité. Vous avez peut-être entendu un jour vous dire un chrétien triste est un triste chrétien. Je sais pas si on a, vous savez... On a eu parfois de ces slogans qui n'ont rien à voir avec l'évangile, hein, mais qui vous marquent. Un chrétien triste, c'est un triste chrétien. Ben non, un chrétien triste, c'est un chrétien qui souffre, c'est un chrétien qui vit des moments difficiles, mais c'est pas un triste chrétien devant le Seigneur. C'est un frère, une sœur en Christ qui a besoin de la grâce de Dieu et qui a besoin d'être rassemblé, qui a besoin d'être à nouveau attaché, qui a besoin d'être sécurisé, de revenir au milieu du troupeau. Sans avoir honte de sa tristesse, sans avoir honte de sa souffrance, sans avoir honte de ce qu'il vit à l'intérieur, sans être jugé, sans être, j'allais dire, pointé du doigt. Ah, je pensais qu'il était plus fort que ça. Je pensais qu'elle était plus forte que ça spirituellement. Dieu dit ici, je rassemblerai ceux qui sont tristes. Ceux qui sont tristes. Vous connaissez 1 Corinthiens 12, 26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres sont honorés et se réjouissent avec lui. Et puis Matthieu 5, 4 nous dit quand même ceci, « Heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. » Parce qu'ils seront ainsi consolés. Et ce matin, bien, Dieu rassemble ceux qui sont tristes. N'ayons pas honte de nos pleurs, n'ayons pas honte de nos tristesses. Dieu rassemble celles et ceux qui sont tristes. Et puis, il y a une virgule, et le texte dit « ceux qui sont loin des fêtes solennelles ». Ceux qui sont loin des fêtes solennelles. Vous savez qu'en Israël, hein, il y a au moins 7 fêtes solennelles hein, qui rythment la vie spirituelle, sociale, religieuse hein, des Juifs. Pâques, la fête des pains sans levain, les prémices, les semaines, les trompettes, expiation, soukot, etc. Et chacune de ces fêtes a un sens spirituel, social, elle correspond là aussi bien sûr à entretenir la foi, entretenir la relation avec Dieu, mais aussi à l'enseigner aux jeunes générations. On a entendu tout à l'heure dans une prière, Seigneur, eh bien donne-nous aussi de partager à nos enfants, à nos familles. Et c'était le but de ces fêtes, non seulement d'entretenir la foi du peuple, mais également de communiquer, de partager aux jeunes générations quelque chose de particulier. Parce que ces fêtes étaient fondées sur quelque chose de particulier, elles étaient fondées sur une alliance que Dieu avait contractée avec son peuple. Il y a dans le psaume 50, verset 5, ce beau rappel, « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Rassemblez-moi les fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Bien entendu, il demeure toujours des situations qui sont particulières, où des frères et sœurs, à cause de la persécution, à cause de l'éloignement géographique, à cause de la maladie, eh bien, ne peuvent pas toujours se rassembler, j'allais dire physiquement, mais il y a quand même pour nous et pour ces frères et sœurs une promesse. Il y aura ce grand rassemblement éternel hein, dans l'éternité, dans le ciel, où nous serons tous ensemble dans la présence de Dieu, mais en attendant. Dieu s'emploie à rassembler ceux qui sont éloignés du sacrifice de la croix ou ceux qui ont besoin d'y revenir. Il y a aujourd'hui bien des milliers, des millions de personnes qui n'ont pas encore fait alliance par le sacrifice. Et c'est une source aussi d'encouragement et de prière pour nous, pour toutes celles et ceux que nous connaissons, dans nos familles, dans nos lieux de travail, là où nous habitons. Seigneur, je sais que tu fais des promesses, tu veux rassembler ceux qui sont loin de cette fête solennelle, de l'œuvre de la croix, de ce moment où tu as donné ta vie, de ce moment où tu as donné ton corps pour nous, pour que ce matin nous soyons rassemblés. Rassemblés, mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Quel honneur ce matin de pouvoir ainsi rassembler. Mais savoir que Dieu cherche encore autour de nous des hommes, des femmes, des jeunes gens, des enfants, des personnes âgées, pour qu'eux aussi bien viennent dans sa présence et soient eux aussi bien avec nous dans la présence du Seigneur. Et puis, Dieu continue. Il dit, rassemble ceux qui sont dans la tristesse, ceux qui sont loin des fêtes solennelles, ceux qui sont loin de toi, sous le poids du déshonneur. Sous le poids du déshonneur. On connaît l'histoire du peuple juif, hein, nous le savons, et l'histoire nous rappelle que, eh bien, il a subi de nombreuses périodes d'humiliation, de souffrance. On commence déjà par Moïse, Pharaon, et puis toute l'histoire récente, la Shoah, etc., nous rappelle, et aujourd'hui encore, nous rappelle la souffrance, l'humiliation. Alors, bien sûr, l'Écriture nous enseigne que une des sources de ce déshonneur qui a été ainsi provoqué, eh bien, c'est la désobéissance, l'éloignement, en tout cas, du peuple de Dieu, de son Seigneur. Mais pourtant, dans sa miséricorde, régulièrement, Dieu va rappeler, va rassembler à nouveau tous ceux qui ont vécu dans le déshonneur. Et peut-être que ce matin, eh bien, nous vivons aussi quelque part un temps de déshonneur. On parle en ce moment, il y a une campagne nationale, vous le savez, c'est très bien, sur le harcèlement, sur l'inceste. Et les statistiques sont terribles. Hein, ils ne sont pas objectifs parce qu'on ne peut qu'estimer, mais on estimerait qu'il y a au moins une personne sur 10 qui a été là aussi victime d'inceste. C'est énorme, c'est terrible. Et on y est tous confrontés, hein, nous qui sommes dans des éducateurs, etc., auprès des enfants, mais là aussi, parfois, bien, au niveau adulte, il y a des choses. Le déshonneur d'avoir été souillé, c'est terrible parce que on inverse là aussi la psychologie, on inverse, et on le sait très bien, hein, que malheureusement, souvent, ces enfants ou ces jeunes gens, bien, se culpabilisent, se disent finalement quelque part, c'est de ma faute. Et ça marque, nous le savons, être déshonoré dès son enfance. On peut être aussi parfois déshonoré par les agissements d'un proche, même dans la famille, et, parce qu'on est lié, et quelque part on est humilié, on est déshonoré, ce n'est pas quelque chose qui vient de nous, mais on subit ce déshonneur, on y est aussi attaché, et on le vit de cette même manière. Mais ce matin, il y a une bonne nouvelle, peut-être pour ceux qui vivent, ou celles qui vivent cela, eh bien, Dieu est celui qui rassemble, Dieu est celui aussi qui veut laver, qui veut purifier, Dieu est celui qui veut justifier, Dieu est celui qui veut déculpabiliser. Dieu est celui aussi, bien, qui veut nous aider à passer au-delà, à pardonner, à arriver dans cette dimension. C'est un processus, c'est un protocole. Je ne dis pas que dans ce genre de situation, le pardon, excusez-moi, va être instantané, mais il va être comme un protocole mis en place. Et c'est souvent par étapes que ce pardon peut arriver de manière pleine et entière, hein, dans ce genre de déshonneur. Mais Dieu là aussi nous y conduit. Étape après étape, en tout cas, eh bien, ce matin, Dieu rassemble ceux qui ont été déshonorés. Et ceux qui vivent encore peut-être ce déshonneur au fond de leur cœur, parfois bien enfoui, hein, mais c'est une réalité spirituelle. Notre Dieu guérit nos cœurs qui sont comme déshonorés. Et puis le texte, ensuite, nous dit ceci, il rassemble ceux qui ont été chassés. Il rassemble ceux qui ont été chassés. Là encore, l'histoire nous apprend que, au travers du peuple juif, de son histoire, beaucoup ont été chassés, bien sûr. Mais peut-être que ce matin aussi, eh bien, vous vivez le mépris, le rejet, à cause de votre foi. Et ça peut commencer au sein de la famille. Ça peut être dans un quartier, ça peut être dans un lieu de travail. Alors, bien sûr, on pense souvent à nos frères et sœurs qui sont persécutés. Mais c'est une réalité aussi que peut-être vous pouvez vivre. On prie en ce moment pour un couple, un frère en particulier, eh bien, qui vit cette calomnie à cause de sa voix, de sa foi. Et c'est terrible. Hein, dans son quartier, sur sa maison, il y a toutes sortes d'inscriptions calomnieuses, mensongères. Il y a des coups de téléphone aussi, de menaces envers lui, envers sa famille, ses enfants. Il m'a retrouvé parfois bien ses pneus qui étaient crevés, etc. Et c'est pas une journée. Ça fait des semaines et des semaines, voire des mois que cela dure. Et c'est une persécution qui est terrible. On est chassé, on est exclu même de l'environnement. Et puis il y a toutes sortes de répercussions, bien sûr, dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps, hein, de ceux qui ont été chassés. Eh bien, ce matin, là aussi, la Bible nous rappelle que Dieu est rassembleur. Il est rassembleur. Au moins déjà d'être rassemblé dans sa présence, d'être assemblé à sa personne, à sa consolation, à sa grâce. Alors, il y a un texte, on le lit bien sûr, mais quand on le vit, c'est autre chose. Mais Jésus a quand même dit ceci, Matthieu 5, verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. » Et ce matin, bien, Dieu s'adresse à nous, peut-être, qui vivons ces temps de rejet, de mépris, à cause de notre... Il dit bien, je suis celui qui rassemble et qui vous ajoute là aussi à mon peuple, à mes bien-aimés. Et puis, la suite nous dit, bien, comment le Seigneur va-t-il s'y prendre? Comment le Seigneur, va-t-il s'y prendre pour rassembler? Pour rassembler. Eh bien, il y a deux paroles qui nous sont rapportées dans ce texte. D'abord, il dit, je vais agir contre tous tes oppresseurs. Je vais agir contre tous tes oppresseurs. Parce que humainement, personnellement, nous n'avons pas la capacité, n'avons pas l'autorité, n'avons pas la puissance pour nous dégager. Mais Dieu fait une promesse, il dit bien, c'est moi qui vais agir, c'est moi qui vais rassembler. Et comment je vais le faire? Je vais agir contre tous tes oppresseurs. Vous savez bien sûr que le peuple de Dieu, le peuple juif a eu plusieurs oppresseurs. Il y en a des célèbres, il y a Amalek, d'ailleurs de génération en génération, et puis il y en a un qu'on connaît peut-être un peu mieux parce qu'on connaît l'histoire, c'est celle de Gédéon. Vous vous souvenez qui opprimait à l'époque Gédéon? Quel peuple opprimait Gédéon? Vous en souvenez? Les Madianites, tout à fait. C'était les Madianites. Et quand on relit le texte, eh bien, l'oppresseur, le Madianite, il domine, il détruit, il ravage, il dévaste. Ce sont des thèmes qu'on trouve dans le texte. Et nous avons également, bien sûr, des oppresseurs dans nos vies. Il y en a au moins quatre. Il y a le diable. Il y a le péché, il y a le monde, et puis il y a notre chair. Et on retrouve ces quatre oppresseurs là aussi, bien qui ravagent, qui détruisent, qui saccagent, qui dominent et qui dévastent. On peut finalement faire un rapide constat dans nos vies. Effectivement, quand ces oppresseurs s'attaquent à nous d'une manière ou d'une autre, eh bien il y a ces ravages. Et les conséquences dans le texte de Juges 6, c'est que Israël se cache. Et puis, elle est plongée dans une grande misère. Voilà les termes. Lorsque l'oppresseur domine, ravage, eh bien, Israël se cachait pour essayer d'échapper un petit peu. On voit de quelle manière Gédéon essaie de s'en sortir. Et il est courageux, Gédéon. On peut dire ce qu'on veut sur Gédéon. Il est quand même courageux. Il essaie de subvenir aux besoins de sa famille. Alors, c'est vrai que les moyens employés sont peut-être étonnants, mais il fait ce qu'il peut. Parce que le peuple était dans une grande misère. Et quand nos oppresseurs, là aussi, s'acharnent contre nous, eh bien, on peut se retrouver parfois dans une grande misère, une grande détresse morale, psychologique, spirituelle, même physique. Alors, ce matin, bien, rappelons-nous que Dieu nous donne des moyens face à ces quatre oppresseurs. Il nous donne des moyens pour que nous puissions en être vainqueurs. Le diable, par exemple, Éphésiens 4, 27, nous a dit ceci, « Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. 1 Pierre 5, 28, soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévora, résistez-lui avec une foi ferme. Ce sont des moyens que Dieu nous donne ce matin pour résister à cet oppresseur, à Satan. Il nous est dit bien de ne pas accès au diable et puis de lui résister avec une foi ferme. Ce sont des moyens que Dieu nous donne et dont nous devons nous servir pour résister à l'adversaire de nos âmes. Le péché. Eh bien, 1 Jean 7 et 9 nous dit « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Amen. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le monde. Eh bien, Jésus a dit dans Jean 17 « Ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. » Nous avons là aussi bien le secours et la grâce de Jésus pour nous maintenir. Et puis notre cher Galates 5,16, « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Amen. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et ainsi, bien, ce matin, Dieu nous donne des moyens pour vaincre nos oppresseurs. Il va être avec nous. Il sera avec nous face au péché qui nous tente, face à l'adversaire, face à notre chair qui revendique, face à ce monde qui met la pression. Dieu va être avec nous. Il nous donne des moyens. Là aussi, pour être vainqueur. Amen. Et ce matin, bien, il veut ainsi se manifester. Et puis, on pourrait dire aussi que, finalement, la suite du texte nous dit non seulement il agit contre les oppresseurs, mais il nous délivre, il délivre les boiteux. Il délivre les boiteux. Alors, dans le contexte, bien sûr, on peut comprendre que ces boiteux sont sous la tyrannie de maîtres qui vont les exploiter. C'est terrible. On va profiter même peut-être de leur handicap pour les asservir. On profite, hein, et malheureusement, on le voit parfois, hein, dans certaines situations, on préfère mutiler un enfant pour qu'il puisse mendier. C'est beaucoup plus, sentimentalement acceptable. C'est terrible d'en arriver. Et ce sont des pratiques, malheureusement, qui parfois peuvent être courantes. Et c'est une image également de la vie chrétienne. Il y a des moments, il faut le reconnaître, où nous sommes boiteux. Où nous sommes boiteux. Où notre marche est différente, on est hésitant, notre marche est douloureuse. Alors la Bible nous parle de quelques exemples, bien entendu, hein, de boiteux. On connaît bien sûr, et le premier des boiteux, c'est quand même Israël, alias Jacob. Vous vous souvenez, hein, de ce moment où il va lutter avec Dieu, etc. Et puis Dieu va le toucher à la hanche. Et depuis ce moment-là, eh bien sa marche va être différente. Sa marche va être différente. Il va marcher d'une autre manière. Et Dieu l'a délivré de sa vaine manière de vivre, hein, puisqu'il aura bien sûr une autre marche. Et puis, il y en a un autre à qui on peut penser ce matin, un boiteux, c'est Méphibosheth. Lui, il est devenu boiteux par accident. Hein, vous vous souvenez, sa nourrice là, qui fuit devant l'ennemi, qui le laisse tomber. Et puis là, bien, il devient boiteux à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans. Et Méphibosheth, à l'âge de 5 ans, imaginez, eh bien, ne court pas comme les autres enfants, ne monte pas aux arbres comme les autres enfants, etc. Il est peut-être complexé, on se moque certainement de lui, etc. Alors, il y a peut-être de l'injustice dans son cœur, un sentiment de la révolte, mais finalement, il ne joue pas comme les autres enfants. Il est différent à cause de son handicap. Ses pieds sont brisés, il est humilié, et puis, bien... que va devenir sa vie. En plus, hein, il fait partie de la lignée du roi Saül. David monte au trône. Que va-t-il lui arriver? Et là, il y a ce passage extraordinaire. Il est dit ceci que Méphibosheth mangeait chaque jour à la table du roi et David était devenu comme son ami. Méphibosheth, on lui ressemble. Hein, souvent là aussi, nous boitons. Et pourtant, ce matin, le Seigneur nous invite à sa table, au quotidien. Il nous invite dans sa présence et il nous dit, bien, je guérirai, je délivrerai les boiteux. Je délivrerai les boiteux. Ce matin, bien, nous pouvons là aussi faire confiance au Seigneur. Il connaît nos handicaps, il connaît nos faiblesses, il connaît nos limites, il connaît nos incapacités. Peut-être que ce matin, je suis venu, excusez-moi, l'image à cloche-pied. Peut-être que je suis venu même à reculons. C'est-à-dire en disant, mais je suis pas digne de venir en la présence de Dieu. Alors, on vient, on est hésitant. Vous connaissez également l'expression, je ne sais pas sur quel pied danser. Je sais pas si vous connaissez l'expression, hein. Ça veut dire, Seigneur, je viens pas, etc. Et tout cela nous rappelle que nous aussi, bien, nous sommes boiteux dans nos vies, mais que Dieu nous aide à nous rappeler, je rassemblerai. Je rassemblerai comment? Bien, en délivrant les boiteux. Qu'est-ce qui me fait boiter ce matin? Quel est peut-être le petit caillou dans la chaussure? Quel est peut-être mon handicap? En tout cas, ce matin, Dieu veut me délivrer. il veut m'en délivrer. Délivrer les boiteux que nous sommes. Amen. Quelle belle perspective pour être dans ce rassemblement. Et puis je conclue, finalement, pourquoi ? Pourquoi Dieu rassemble-t-il ? Pourquoi, eh bien, nous délivre-t-il ? Eh bien, Sophonie nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, « Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont méprisés. Oui, je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre. » Amen. Deux fois, c'est comme s'il y avait un rappel. Dieu nous confirme, « Oui, je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre. » Amen. Rassembler, délivrer, guérir, ramener, pour faire de nous un sujet de gloire et de louange. Quand j'ai relu ces phrases, ces textes inspirés, je me dis, Seigneur, quelle destinée. Le but de Dieu, c'est de faire de nous, finalement, un sujet de gloire et de louange. Je ne sais pas ce que vous pensez de vous, je ne sais pas ce que vous rêviez quand vous étiez plus jeune de votre destinée. Alors peut-être certains ont atteint leurs objectifs au niveau de la famille, au niveau du travail, etc., de la société. Peut-être que d'autres ne les ont pas atteints. Mais atteints ou pas, il y a quelque chose qui nous dépasse ce matin, qui dépasse tous nos objectifs, même qu'on aurait pu peut-être atteindre. Dieu prépare un peuple comme un sujet de gloire et un sujet de louange. Et ça nous ramène bien sûr, eh bien, à l'épouse que Christ, que Dieu est en train de préparer. Et ce matin, nous faisons partie de cette épouse, et Christ est en train de la préparer, afin qu'elle paraisse devant lui sans tache, sans rides. Vous savez, les petites rides, qui apparaissent de temps en temps. Alors, on a le droit d'essayer de les masquer, c'est pas un problème, moi ça me dérange pas, Mais elles sont quand même là. Elles sont quand même là, on le sait, nous, pertinemment. Mais en ce moment, bien, Dieu est en train de préparer cette Église sans tache ni ride. Et ce matin, bien, c'est cette réunion. Et je termine avec deux textes, Ésaïe 25:8, le premier, et après on pourra aller dans Apocalypse 19:7. Mais Ésaïe nous dit déjà ceci, Ésaïe 25:8, nous faisons partie, ce matin, nous, peuple de Dieu, eh bien, de ce projet grandiose, faire de nous un sujet de gloire et de louange. Ésaïe 25:8, déjà, nous dit ceci. Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre de la honte de son peuple. Il fera disparaître de la terre la honte. Le déshonneur, la boiterie, l'handicap, les faiblesses, tout cela, il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a décrété. Peut-être que nous sommes venus un petit peu honteux ce matin, pour toutes sortes de raisons. Eh bien, nous pouvons nous laisser rassembler. Nous pouvons nous laisser rassembler par le Seigneur. Et puis Apocalypse 19, verset 7 à 10, eh bien, c'est ce qui se passe. C'est la vision de Jean, là aussi, qui va éclairer son cœur et qui éclaire le nôtre ce matin sur cette destinée éternelle. On parlait tout à l'heure avec une sœur et on se rappelait cela. Le meilleur est toujours devant nous. Le meilleur est toujours devant nous. On peut avoir quelques difficultés, quelques soucis ce matin, mais rappelons-nous le meilleur. Et là, il y en a une, excusez-moi l'expression, il y en a une bonne part de meilleur. C'est verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant. En effet, ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. En général, quand on reçoit un carton d'invitation pour des noces, pour un mariage, on est heureux. D'abord, on est honoré. on est fiers. Hein, on est honoré parce que le marié, la mariée a pensé à nous pour partager ce temps de bonheur, etc. Et on est fiers et on est heureux. Et on y va pas à reculons. Hein, on se prépare à un moment de fête, de convivialité. Et là, eh bien, ce matin, nous sommes invités, hein, heureux ceux qui sont invités, ceux qui sont conviés aux fêtes de l'agneau, aux noces de l'agneau. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons bénir Dieu. Pourquoi le Seigneur aime à nous rassembler, à nous assembler tout à nouveau? Parce qu'il veut faire, parce qu'il fait de nous un sujet de louange et de gloire. Dans l'éternité, les anges, nous le savons, se prosternent, acclament, adorent. Mais il y a une chose qui demeure mystérieuse pour eux, qu'ils ne comprennent pas, c'est cette relation d'amour entre le Père et l'Église, entre le Fils et l'Église, entre le Saint-Esprit et l'Église. Ils ne peuvent pas la comprendre. Nous la connaissons ce matin. Et nous sommes, je suis, vous êtes destinés à être un sujet de louange et de gloire. Hein, si on m'avait dit ça, hein, il y a plusieurs années, j'allais dire, avant que je connaisse le Seigneur Jésus, j'aurais certainement, bien sûr, bien ri. Mais ce matin, c'est une réalité pour chacun d'entre nous. Nous sommes honorés, hein, de sa présence. Nous sommes honorés ce matin du rassemblement du peuple de Dieu, non seulement ici, hein, mais sur la terre entière. Et on veut le bénir de tout notre cœur. Amen. Est-ce qu'on peut prier encore quelques instants autour de la Sainte Cène ce matin? C'est justement l'expression de ce rassemblement. Et on va ensemble encore prendre quelques instants pour le bénir, hein, de tout notre cœur. Amen.